Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Ça, c'est une petite fille mouillée qui a perdu ses chaussures.
Dégage ou je t'éclate en gros billes.
Au sommaire aujourd'hui, quelques films cultes ou rattachés à une période qui est devenue culte avec le temps. Là, je pense par exemple au polar français des années 80, comme Tir à vue de Marcangelo, un film de 84, et Urgence de Gilles Béat, sorti l'année suivante. Deux films sortis chez Arcades. On parlera aussi de Giallo, parce que bon, bah voilà, les Gialli, c'est aujourd'hui le genre à lui seul est devenu un genre culte. Hein. Donc, on abordera deux films sortis chez Carlotta Film dans des superbes éditions Prestige limitées, à savoir La Tarentule au ventre noir et Torso. Tarentule au ventre noir, c'est Paolo Cavara, et Torso, c'est Sergio Martino. Et puis on parlera aussi d'un autre giallo, enfin un film à la frontière du genre, qui est sorti chez Elephant Film et qui s'appelle L'homme sans mémoire de Duccio Tessari avec l'ami Luc Méranda. Et pour rester dans les films cultes, alors là, un film qui jouit vraiment d'une aura de culte, parce que c'est un film vraiment particulier qui réunit un certain casting, y compris à la musique et au chant, c'est Bugsy Malone, un film de 76 d'Alan Parker, qui est sorti chez Elephant Film. Et on parlera également d'un coffret qui est sorti chez Artus Film. Alors là, pour être culte, c'est pas à mettre devant tous les yeux. C'est le coffret Big Ass Luna, qui comprend Bilbao, Caniche et Lola, trois films assez relevés. Et on terminera avec un cinéaste qui est devenu culte dans le monde entier, dont on estime, nous, dans l'émission, parce qu'on l'aime depuis qu'on a découvert Triple R, hein, on l'a pas découvert avant tout le monde, on est comme tout le monde, on l'a découvert avec l'arrivée un peu de ces films qui circulaient sur la toile, c'est SSJ Rajamouli. Et là, Carlotta Film sort un superbe coffret des deux films, là, enfin, du coup, ça fait un seul et même film, de La Légende de Baobali. Et ben, ça, on en parlera avec joie et bonheur. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Kevin Boissezon, Thierry Lopez, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer film culte, je suis aujourd'hui accompagné de Johan Chanoir, dit le chat errant, historien, critique de cinéma et enseignant à Sciences Po. Miaou à toi, Johan.
Miaou à toute l'équipe sous le soleil.
Également présent à nos côtés, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine, nous est oublié. Co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Et enfin, on garde le meilleur pour la fin, toujours, Thomas Roland, qui est présent dans ce studio, alias le loup-garou picard qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Salut Thomas.
Salut Damien, salut Jérôme, salut Johan et bien évidemment bonjour à toutes.
Nous allons ouvrir cette émission consacrée à des films cultes, plus ou moins cultes, en tout cas qui ont pu avec le temps acquérir un certain statut. Et aujourd'hui, il faut bien le dire, depuis le livre de Rod Glacial paru chez Le Chat qui fume, le polar français des années 80 connaît un regain d'intérêt, et en particulier d'ailleurs aussi le polar français, on va dire, un peu plus estampillé film du milieu, c'est-à-dire pas forcément les grosses productions les plus connues, mais toute une flopée de petits films. Alors moi, j'adore les films de Jean-Claude Missian, tout ça, par exemple. Et il y a
un réalisateur qui a marqué son époque, voilà, avec un film d'ailleurs qui n'est pas vraiment un polar, une sorte de film un peu surréaliste, s'appelle Rue Barbare, c'est Gilles Béat. Et puis il y avait un autre film aussi qui est une réalisation unique de Marc Angelo et qui met en scène alors un beau gosse, Laurent Mallet, et puis une toute jeune Sandrine Bonner qui à l'époque n'était pas encore devenue la superstar qu'elle allait devenir, en tout cas la superstar d'un certain cinéma d'auteur en France. Et ce film, c'est Tir à vue de Marc Angelo. Et il se trouve que ces deux films sortent là, chez Arcades. Donc on avait envie, mon cher Johan, d'aborder ces deux films qui sont intéressants, je veux dire, à revoir aujourd'hui, parce qu'ils nous donnent une certaine vision des années 80.
Alors tout à fait, Jérôme. C'est d'ailleurs davantage dans leur côté, on veut dire, un peu témoignage, presque film d'archives sur les années 80, que ces deux films sont intéressants. Parce que, bon, par exemple, le premier, avec donc Urgence, avec Richard Berry, il a énormément vieilli en termes de rythme, de structure narrative. Et il est très en dessous d'autres films un peu avant les années 80, par exemple sur le complot d'extrême droite. Moi, je pense que Boisset, avec Le Sceau de l'Ange, a fait beaucoup mieux, de manière plus forte également. Et puis, les lenteurs, je ne sais pas ce qu'ils ont à tourner sans arrêt avec la voiture, le 4x4 de Paris-Dakar. On a l'impression qu'ils sont sponsorisés par cette marque de voiture et puis qu'ils veulent la montrer à l'écran. Mais sinon, ça montre bien une chose qui n'est peut-être pas dans l'attention du réalisateur, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça montre que la violence, aujourd'hui, elle a changé, en fait. Et que la violence dans les années 80, c'est soit la violence, comme dans le tir à vue d'une jeune délinquance, soit la violence de groupes politiques très construits, et pas cette violence terroriste, etc., qui existe, hein, comme en Allemagne, par exemple, ou en Italie. Ça, tu le sais mieux que moi. Mais c'est une autre violence, une violence presque franco-française qui se retrouve à l'écran. Et dans ces deux aspects sociologiques, je trouve que les films sont très intéressants à voir et à revoir.
Oui, alors Urgence... Alors, je vais commencer par Tir à vue, parce que chronologiquement, il est sorti avant. Tir à vue, c'est donc signé d'un directeur de la photo, Marc Angelo. C'est un directeur de la photo assez réputé, hein. Et c'est assez simple, en fait. C'est la rencontre de deux paumés. Laurent Mallet, qu'on a un peu oublié, qui avait un frère jumeau aussi, qui est un acteur très beau gosse, pas un super acteur non plus, quoi, mais un beau mec, qui a eu son heure de gloire dans les années 80, qui travaille encore beaucoup, je crois qu'il fait beaucoup de théâtre, des choses comme ça aujourd'hui, et il a vraiment un certain charisme quand même. En fait, ce Laurent Mallet va être déçu d'une décision de justice, enfin, il va être considéré comme victime d'une injustice par rapport à une horreur qui est arrivée à son frère, et il va commencer à entamer une croisade un peu comme ça de petits braquages. Et puis un jour, il va rencontrer Sandrine Bonner, qui elle a été, on devine, hein, que c'est quelqu'un qui a certainement été victime, qui a d'abus, c'est quelqu'un qui est assez exhibitionniste, qui a une sorte de sexualité débridée comme ça. Et en fait, ça va matcher. Et entre eux deux, va se créer une sorte d'osmose qui va les amener à basculer en fait dans le crime, puisque c'est elle la première fois qu'il tue, hein. Lui il tue pas tout de suite, lui il a tendance à reculer, il a un peu peur de sa propre violence, elle y va plus franco. Et donc ce couple va être traqué par deux flics, incarnés par Michel Jonas, alors qui est un flic incroyablement homophobe, raciste, qui est vraiment un sale type, et Jean Carmé, qui est quelqu'un qui a perdu sa fille, qui est quelqu'un de complètement dépressif. Et en fait, tous ces personnages sont totalement dépressifs et nous donnent une vision des années 80 totalement dépressive. Moi, j'en gardais le souvenir d'un film assez glauque où même la sexualité est triste. Et effectivement, le film est très, très glauque dans ce que ça raconte des années 80. Alors, certains ont voulu y voir autre chose parce qu'il y avait justement... Il y a eu après Audrey Maupin et Florence Rey qui était plutôt de la tendance autonome et qui avait fait une croisade sanglante comme ça dans Paris. Là, on est sur autre chose. Il ne faut pas tout mélanger. Mais par contre, effectivement, c'est le parcours de deux paumés qui basculent d'une petite délinquance, on va dire, à quelque chose de plus violent. Et l'autre film, Urgence, il parle de ce que tu disais à l'instant, effectivement. Alors, si le film de Marc Angelo était par contre plutôt bien mis en scène, très sec, avec des choix de cadre très travaillés, ce qui est assez étonnant, mais ce qui renforce le côté froid et glauque du film, le film de Gilles Béat, lui, on retrouve vraiment le style Gilles Béat, un style plus nerveux, il essaye d'être inventif, parfois c'est maladroit, parfois c'est réussi. Là, il sort de Rue Barbare, qui a fait un carton. Comme tu l'as dit, il embauche un tout jeune Richard Berry, qui est... beau et fringant. Hein, moi, je le trouve très, très bien dans le film Richard Berry. Qui est un journaliste sportif qui est un jour contacté par Fanny Bastien. Alors Fanny Bastien, c'est une actrice qui a eu son heure de gloire, hein, comme ça au mi-temps des années 80. Et il est contacté par cette jeune femme parce que tout simplement, son frère était un journaliste infiltré dans une cellule d'extrême droite, cellule terroriste. Et il a réussi à filmer des images de la préparation d'un attentat dont on ignore réellement en quoi il va consister. Enfin, on le devine assez vite quand même quand on voit le film. Et il a filé la vidéo, la caméra et la vidéo à sa sœur avant d'être tué, hein, et d'être, parce qu'il a été repéré par les fachos. Alors ce qui est marrant, c'est de voir aussi que, évidemment, qui c'est qui fait le gros facho méchant, et ça joue beaucoup dans la qualité du film, c'est Bernard-Pierre Donadieu, qui est un acteur qui a joué les méchants quasiment toute sa vie et qui est un super acteur, mais voilà, qui est un acteur qui a été cantonné à ce type de rôle. Et effectivement, le film donne à voir une vision qui est une vision... Là, c'est pareil, assez sombre, mais très différente, comme tu le disais à l'instant, d'une violence qui est différente, d'une violence politique qui est différente et qui est à la fois semblable en certains aspects à ce qui se passe aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit dans ce film, je trouve, qui est plutôt efficace, même si tu l'as dit, il a vieilli, il a des petits problèmes de rythme, mais on voit un polar qui... traite d'un sujet politique sans vraiment le traiter. D'ailleurs, Fanny Bastien dira par la suite que le scénario qu'elle avait lu était pas comme ça, en fait, était beaucoup plus politique, et que le scénario a été revu pour être un peu moins orienté politique. Il n'en demeure pas moins que ça reste un film efficace, et que je trouve que ces deux films-là sortis chez Arcades sont très intéressants à revoir aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre, parce que bon, bah, c'est aussi une manière de rappeler aux nostalgiques des années 80 que les années 80, bah, c'était pas si cool que ça. Voilà.
Oui, tu as tout à fait raison. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de reparler. Moi, je trouve que c'est dans les seconds rôles, hein, que ces deux films sont certainement les plus forts encore aujourd'hui. Et bon, en plus, ils sont très, très bien réédités. Les copies sont belles, hein, il faut le dire aussi. Enfin, Donadieu en flic néo-nazi, il est remarquable. Je trouve qu'il est presque. Est-ce qu'il y a une volonté, un clin d'œil? Il est presque. Il ressemble presque à Terminator. À un moment donné, les cheveux très, très courts. On voit qu'il a pris du muscle, etc. Il est très taiseux. Moi, je trouve que là, qu'il incarne parfaitement l'ennemi politique par excellence. Bête, mais pas trop bête. Violent, mais ça, il est absolument violent. Il y a même une sorte, je ne sais pas ce que tu en penses, Jérôme, une sorte de jouissance dans la violence. Lorsqu'il est attaché, en fait, il sourit. Enfin, je trouve qu'il est vraiment... Enfin, il fait peur, quoi. Il est vraiment crédible. L'autre film avec Bonnaire, c'est Jeanne d'Arc, hein, dans un film fleuve. Là, ça serait plutôt Bonnie and Clyde, hein, je dirais, à la place de Bonnie and Clyde, parce que, bon, bien sûr, c'est un couple qui se constitue et qui sombre dans la criminalité. Il faut quand même prévenir nos auditeurs qu'il y a quelques scènes qui sont particulièrement osées pour l'époque, hein, même dans les années 80. Enfin, il y a des scènes qu'on pourrait retrouver dans les films porno, hein, ni plus ni moins. Et donc, il y a tout ce côté un peu... Alors, est-ce que c'est une volonté, toi tu le sais peut-être, est-ce que c'est une volonté de s'inspirer de Bonnie and Clyde et puis d'en faire une version franco-française, ou c'est quelque chose qui est une idée propre du scénariste? Mais je trouve que c'est ça d'ailleurs qui retire un peu du rythme, c'est le fait que bon, on perd beaucoup de temps sur leurs ébats, sur leurs émois, etc. Et j'aurais bien préféré que ce soit plus dans l'action. Jean Carmet est extraordinaire. Par contre, Jonas en flic homophobe, raciste, etc. On n'y croit pas trop du tout. Et par contre, ce que tu disais pour conclure, c'est cette violence contre les immigrés, contre les homosexuels. Enfin, la scène avec l'homosexuel qui est qu'on laisse attendre pendant des heures dans le commissariat et qui se suicide, je trouve ça, on voit pas grand-chose. Mais je trouve qu'il y a une violence là presque insoutenable. Donc, comme tu disais, c'est vraiment une violence qui peut être comparée à celle qu'on connaît malheureusement aujourd'hui, mais qui reste aussi très singulière d'une société française, en fait, qui est crispée sur ses barrières sexuelles, ses barrières de genre, ses barrières politiques. Et là, je trouve que, dans ce sens-là, Tir à vue, c'est un très beau film.
Vous écoutez Culture Prohibée. Après ces deux polars français, on va franchir la frontière, on va aller de l'autre côté des Alpes pour parler un tout petit peu de giallo. Le premier, c'est un film de 71, La Tarentule au ventre noir de Paolo Cavara, où en fait un inspecteur traque un tueur et voilà. Intrigue de giallo, hein, voilà. Sauf que là, le héros est un inspecteur. C'est pas fréquent, en fait, dans le giallo, le héros est souvent un quidam. Alors là, c'est le septième film de Paolo Cavara, qui a pas réalisé beaucoup de films et qui a démarré dans le Mondo Movie avec Mondo Cane, qu'il a co-réalisé avec Gualtiero Giacopetti en 62. Et puis là, ce film-là, c'est sa deuxième œuvre de fiction seulement, après La Capture, un film de 69. Et c'est un film, La Tarentule au ventre noir, qui a longtemps été un film presque invisible. Donc qui a longtemps suscité chez les giallophiles de grandes attentes. Et en fait, le film a souvent été peu compris, je trouve, par les giallophiles, parce qu'il débute par un meurtre de la sublime Barbara Boucher, un meurtre qui donne à penser en fait qu'on va avoir un giallo opératique classique, très travaillé, très bien découpé, très beau, avec des femmes sublimes et un tueur qui a un modus operandi qui est vraiment pas commun. Voilà, même ses gants sont particuliers. Enfin voilà. Mais en fait, non. Après ce premier meurtre, le film va devenir une sorte de film déconcertant, très dépressif, qui va être un film en fait un peu chargé d'une sorte de spleen comme ça, avec ce flic qui s'appelle Tellini là, qui est en fait un personnage très seul, et c'est un film qui raconte en fait l'urbanisme de l'Italie, l'urbanisme vertical, qui est d'ailleurs souligné hein, lors d'une scène de poursuite sur un toit. C'est pas du tout un thème que je fantasmerais sur le film. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui est souligné par la mise en scène. Un film dans lequel les gens meurent dans l'indifférence générale, puisqu'on est dans les villes, c'est déshumanisé. Et c'est vraiment un giallo étrange. Donc, elle est centrée sur ce personnage d'inspecteur Tellini. Alors, d'habitude, dans le filon et le spectateur, c'est plutôt un simple quidam, c'est ce que je disais à l'instant. Et là, on va suivre cet anti-héros qui est un type... Qui a un besogneux, en fait, qui n'a pas d'inspiration géniale, qui n'est pas Sherlock Holmes, quoi. Il n'est pas brillant, il découvre pas tout comme ça, tout lui tombe pas tout cuit, voilà. Et il est même confronté à ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque à la masculinité toxique. Il y a un moment, tous ses collègues s'avèrent être des gros beaufs parce qu'on l'a filmé dans son intimité, la vidéo est projetée. Enfin, c'est une scène. Très très déconcertante, mais pourtant on arrive, c'est impossible de pas s'attacher en fait à ce personnage cartésien qui est en fait très intelligent. Il n'arrête pas de se remettre en cause pour essayer de se rapprocher de la vérité. Donc dans son enquête qu'il mène à tâtons, il est souvent démoralisé parce qu'il échoue assez souvent en se croyant près du but. Alors il est campé par un très grand acteur qui s'appelle Giancarlo Giannini, qui est une icône en fait du cinéma engagé en Italie et qui a beaucoup tourné, en particulier pour Lina Wertmüller, réalisatrice engagée, dont dans le fameux Mimi Metallo, blessé dans son orgueil. Et d'ailleurs, le premier rôle de cet acteur, c'est rigolo, pour le grand écran, était celui de Christian dans Libido, l'un des proto-giallo, l'un des tout premiers giallo de l'histoire du genre. Et Giancarlo Giannini était très apprécié des metteurs en scène italiens parce qu'il parlait une grande partie des dialectes qui étaient parlés dans les différentes régions d'Italie, parce que c'est un pays très régionalisé, qui l'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais dans les années 70, c'était encore très fort. Et donc, y avait des langues, des patois, comme on dit aujourd'hui, voilà, qui étaient différents selon les régions. Et effectivement, le film, il est culte. Il est culte parce que... Il y a trois ex ou futurs James Bond girls dedans, donc j'ai déjà dit. Il y a Barbara Boucher qui subit un meurtre hallucinant dans les 10 premières minutes. 10 minutes quand même, hein. c'est un truc assez dingue. Il y a Barbara Bach, la belle Barbara Bach qu'on a pu voir dans L'Espion qui m'aimait de Lewis Gilbert. Et il y a Claudine Auger aussi, on peut voir dans Opération Tonnerre de Terence Young. Et puis, il ne faut pas oublier la très belle et superbe actrice qui continue de tourner, qui a une carrière assez incroyable, Stefania Sandrelli, Brune Incendiaire, qu'on a vu aussi bien. Alors, elle a tourné pour tous les types de metteurs en scène, que ce soit du cinéma intello, du cinéma bis. Et donc, on la trouve, par exemple, aussi bien chez Bertolucci dans Le Conformiste que chez Tinto Brass dans La Clé, qui était un film qui mettait en vedette cette actrice et sa sensualité, malgré qu'elle avait déjà un certain âge à l'époque. Et moi, je ne suis pas un fan de Mondo, mais je suis surpris par ce film qui est qui propose une vision de l'Italie vue à travers les yeux d'un flic qui est entre deux mondes. En fait, c'est un peu ce flic, c'est un peu une sorte de type moderne qui travaille dans une institution d'un autre temps. Enfin, et le film laisse un étrange sentiment d'amertume. Et le film n'est pas ce que les 20 premières minutes promettent, c'est-à-dire un giallo flamboyant à l'érotisme le plus raffiné et aux scènes de meurtres très très graphiques. En fait, bon, il y a des meurtres très relevés, hein, attention, hein, y a d'autres meurtres dans le film, mais en fait c'est une œuvre atypique, complètement pour moi envoûtante, et qu'un supplément d'âme qui est dû aussi à une superbe BO très lancinante composée par Morricone. Et je pense qu'on peut dire que c'est un des rares exemples de giallo mélancolique qui poursuit le spectateur après sa vision. Alors le film est proposé avec pas mal de suppléments, dont un entretien avec Barbara Boucher et un entretien avec Jean-François Roger, voilà, directeur de la programmation à la Cinémathèque française. Donc c'est une très belle édition. Autre film en édition prestige qui sort chez Carlotta Film, autre giallo, c'est Torso de Sergio Martino, un film de 73 dans lequel une Américaine, Jane, part étudier l'art en Italie. Et puis on est du côté de Pérouse, et puis la Dolce Vita va s'arrêter. Il y a des meurtres sur le campus, des meurtres assez sauvages. Et la police parvient pas à retrouver le coupable. Là, on est vraiment dans le giallo. C'est-à-dire que la police, elle est incapable. Elle arrive toujours quand c'est fini, c'est trop tard. C'est une des constantes du giallo, quand même. Hein. Très inquiète, donc, Jane et ses amis partent à la campagne pour s'éloigner, être en sécurité. Bon, malheureusement, on dirait bien que le tueur est allé se reposer au même endroit. Voilà. Donc, Sergio Martino, on me rappelle, quand même. C'est, à l'époque, il marche sur l'eau. C'est un artisan de génie. C'est l'un des... Je pense qu'à part Dario Argento, c'est le plus grand contributeur à l'histoire du giallo, hein, avec L'étrange vice de Madame Ward en 71, toujours en 71 La queue du scorpion, en 72 Toutes les couleurs du vice, toujours en 72 Ton vice est une chambre close dont moi seul est la clé, et puis arrive en 73 Torso. Torso, alors comme le précise d'ailleurs... dans les bonus, Jean-François Roger, parce qu'il y a pas mal de bonus, hein, il y a un entretien, puis il y a Luc Méranda dedans, l'acteur français, entretien avec Luc Méranda, entretien avec le co-scénariste Ernesto Gastaldi, entretien avec le réalisateur et co-scénariste Sergio Martino, et il y a Jean-François Roger. Et Jean-François Roger, lui, il explique bien que c'est... Alors, parce que d'habitude, Sergio Martino travaille pour son frère, qui est producteur, qui est un bon producteur, hein, mais là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un gros budget, parce qu'il a travaillé pour Carlo Ponti, qui est un très gros producteur. Il va avoir droit à 9 semaines de tournage, et du coup, il va pouvoir faire un film très chiadé. Alors déjà, il arrive à faire des super films en 4 semaines, alors je ne vous raconte pas ce qu'il nous fait en 9 semaines. Et dès les premières minutes de générique, on est dans une ambiance singulière. La BO des frères De Angelis, certainement leur meilleure, parce qu'eux, ils sont capables du pire comme du meilleur, et là, c'est extraordinaire. Scène érotique, bambola de chair et de porcelaine, jeu avec l'obturateur, la mise au point, le flou. On est dans cette question de la perception de l'image qui est une des thématiques centrales du giallo. On place le spectateur en situation de voyeur, la scopophilie, thématique majeure du giallo, donc ouvre ce sommet du genre, et qui va amorcer ce film s'il est resté célèbre. Et il était très difficile à voir en France, hein, avant qu'il soit sorti il y a quelques années par The Ecstasy au film. Et là, l'édition en 4K, elle amène encore d'autres perspectives vis-à-vis du film. Il était quasi invisible. Par contre, aux États-Unis, il était culte. Parce que d'ailleurs, le titre Torso, c'est le titre connu aux États-Unis, parce que le titre italien, c'est I corpi presentano tracce di violenza carnale. Voilà. Donc ça n'a rien à voir, hein, avec le torso. Et À partir de là, on va avoir un film extraordinaire avec des scènes de meurtre complètement incroyables. Il va y avoir un meurtre d'une jeune femme avec son amant qui est dans une mini, évidemment, en Italie. Et puis, vue subjective du tueur. Enfin, on a vraiment l'impression d'être dans Vendredi 13 avant Vendredi 13. Enfin, c'est vraiment le film qui va amorcer la mue vers le slasher. Il y avait eu La baie sanglante de Bava en 71, mais là, il y a ce film-là qui fait la mue, qui nous amène vers ce que va devenir le cinéma d'horreur dans les années à venir. C'est assez incroyable, hein. Je vous invite, quand vous allez voir le film, vous allez être complètement halluciné. Il y a sans cesse des jeux avec le contre-champ, voire des jeux avec le hors-champ aussi. D'ailleurs, il y a une ellipse géniale qui se passe dans la demeure où sont réfugiées toutes ces jeunes femmes. Il y a une scène extraordinaire, dite scène de la clé, que je ne vais pas vous dévoiler ici. Le film est un summum du genre. Voilà. Et là, donc, il vient compléter les précédentes éditions du film. Il est supérieur en qualité, le 4K est sublime. Et on peut retrouver les bonus des précédentes éditions avec, en plus, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous les entretiens qui viennent s'ajouter à celui avec Jean-François Roger. Et donc voilà, donc Torso comme la tarentule au ventre noir. Tous les deux, c'est des éditions prestige, limitées, sorties chez Carlotta Film. Et il faut absolument que vous ayez ça dans votre vidéothèque parce que vous n'allez pas le regretter. C'est deux très bons représentants du genre, voire même plus avec Torso. Artus Film nous sort donc, dans une bien belle édition, L'homme sans mémoire, qui était sorti d'ailleurs au cinéma en France, sous le titre La trancheuse infernale. Et oui, quel titre, vous allez comprendre pourquoi. C'est un film de 74, il était sorti en 75 en France. Alors, c'est un film un peu particulier parce qu'il est monté par la Dania Film. Alors, vous savez, la Dania Film, c'est la boîte de Luciano Martino, le frère du fameux Sergio Martino, l'un des meilleurs artisans du cinéma bis transalpin qui a sévi. Il réunit évidemment beaucoup de talents, hein, qui gravite autour de cette boîte de production et de Luciano Martino, à savoir, entre autres, l'acteur français Luc Méranda. Luc Méranda, un physique impressionnant et un certain charisme quand même, Luc Méranda, un acteur qu'on aime beaucoup. Et puis, au scénario, Ernesto Gastaldi, qui est un des scénaristes les plus importants de l'histoire du cinéma bis en Italie. Avec toute cette équipe-là, il nous pond un film qui est quand même à la lisière du giallo et du polar. Hein. C'est un peu un mélange des deux. Enfin, plutôt du thriller psychologique et du giallo. Alors, il est classé dans le giallo. Bon, vous avez compris que le giallo, c'est un genre pas facile à définir. Donc, il est classé par certains dans le giallo, par d'autres non. Moi, je trouve qu'il est un peu entre les deux. Et il raconte quoi, ce film qui était sorti chez Neo Publishing à une époque? C'est l'histoire de Luc Méranda, qui s'appelle Edward, qui est devenu amnésique après un accident. Et donc, après un long séjour en clinique, il retourne en Italie retrouver son épouse Sarah, donc, qui est jouée par Senta Berger. Mais elle a refait sa vie parce qu'elle le croyait mort. Et petit à petit, Sarah est victime d'incidents étranges, sans réelle explication. Et puis, petit à petit, il y a des éléments mémoriels, une sorte de passé trouble, une sorte de vie de voyou, en fait, qui remonte petit à petit dans la vie d'Edouard, dans son cerveau, voilà. Et puis intervient un certain Georges, qui la menace de mort si son mari ne restitue pas une somme d'argent qu'il aurait gardée pour lui seul. Voilà. Donc à partir de là, va se construire un film très agréable, en fait, hein, très agréable à suivre, une bonne série B, bien troussée. Alors au scénario, il y a aussi Roberto Infascelli, alors qui n'est pas le plus connu des scénaristes, mais pourtant, l'année suivante, il va signer un script assez dingue, celui de La bête tue de sang-froid d'Aldo Lado, qui a marqué tous les spectateurs qui l'ont vu. Et puis alors, que dire de ce film? Ce film, il a ça de particulier, c'est que Duccio Tessari, c'est un très bon réalisateur de western, donc on connaît ses deux Ringo, hein, mais c'est pas forcément un réalisateur de giallo en soi. Voilà. Donc, quand il a fait, par exemple, un papillon aux ailes ensanglantées, que j'aime beaucoup, qui est un précurseur du legal thriller, comme on dit maintenant, il avait adopté un style visuel épuré, presque naturaliste, presque documentaire par instant, très loin du giallo esthétisant hein, de l'âge d'or, justement, de l'époque à laquelle le film a été réalisé, dans l'âge d'or qui se situe entre 70 et 75. Et là, on est plutôt en 74, d'ailleurs, plus proche de la fin de l'âge d'or du genre. Mais quand même, cette année-là, il y a par exemple La Lame Infernale de Massimo Dallamano ou Le Parfum de la Dame en Noir de Francesco Barilli qui sont des films atypiques. Mais le film se regarde agréablement, en particulier aussi grâce à la musique de Jennifer Yeo, parce que qui est assez chouette. La ville de Portofino qui est très belle, qui est très bien filmée. Et puis la machination est au rendez-vous, une machination bien tordue comme on les aime. Mais là où le film prend un intérêt important et d'où son titre français, c'est dans sa dernière partie, c'est-à-dire qu'après une heure de thriller plutôt classique, de film de machination classique, là on est dans la folie giallesque, voilà, dans les excès du genre, avec un final à la tronçonneuse, d'où le titre, d'où ce fameux titre de Tronçonneuse Infernale. Donc au final, ce giallo est plutôt correct sans être flamboyant, et donc il serait dommage de passer à côté de cette très belle édition qui apporte vraiment un plus par rapport à celle de Neo Publishing, parce que là, Artus Film nous donne à voir vraiment un master retravaillé, l'image est très belle. Puis bon, bah, y a toujours des bonus très intéressants, hein. Olivier Père, Luc Méronda et un portrait de Lucio Tessari, voilà, qui sont dans les bonus. Donc voilà, on vous conseille vivement cet homme sans mémoire sorti chez Artus Film. Vous écoutez Culture Prohibée spécial film culte. Après nous être promenés dans notre bel hexagone et de l'autre côté des Alpes, dans un fort joli pays également d'ailleurs, maintenant on va traverser l'Atlantique avec notre ami Damien Demey pour nous parler d'un film quand même qui réunit une sacrée équipe, hein, parce qu'on retrouve le Paul Williams de Phantom of the Paradise, qui est à la manette. Alan Parker, réalisateur, qui a connu son heure de gloire, hein, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, avec Birdie, par exemple, avec The Wall aussi, d'après Pink Floyd. Donc, et surtout avec ce qu'on peut appeler son meilleur film, Angel Heart, sur le vaudou, très bon film avec De Niro. Et là, justement, il signe une coproduction États-Unis-Royaume-Uni, mon cher Damien, une comédie musicale hors norme, mais tu vas nous en dire beaucoup plus, qui s'appelle Bugsy Malone, qui est disponible chez Elephant Film.
1929, New York, la Prohibition. Grossam est un chef de gang et gérant d'un bar clandestin nommé le Grand Chelem. Mais une bonne rivale menée par Dan le Dandy lui déclare la guerre et possède une arme secrète invincible, une mitraillette. Sam engage alors le mystérieux et solitaire Bugsy Malone pour l'aider. Bugsy fait par ailleurs la connaissance de la belle Bluesy Brown qui aspire à une carrière artistique. Alors, rien qu'avec ce résumé, là, vous sentez déjà l'ambiance un peu film noir. Le film commence avec une voix off, on est sur un assassinat, on est en plein dans la guerre des gangs. Alors, comme Jérôme, tu l'as mis en avant, Alan Parker, là, il réalise un de ses premiers films qui on retrouvera notamment certaines thématiques dans ces genres. C'est-à-dire qu'on a affaire à une, en dépit de mon introduction, une comédie musicale. Thème sur lequel il va rester très très proche parce que plus tard il signera Fame et surtout, comme tu l'as dit, The Wall de Pink Floyd. Parmi les rôles qu'on retrouve, il y en a un qui m'a fait tilter. C'est un des personnages qui joue la compagne de Gros Sam, qui est Tallulah, qui est jouée par Jodie Foster, qui est dans l'un de ses premiers rôles. On est après son apparition dans Taxi Driver. Et même si je vous l'ai dit que ça posait un contexte de film noir, et que là, je vous dis qu'on a une jeune Jodie Foster qui joue la compagne d'un Gros Sam, que vous imaginez peut-être comme un grand gangster et tout. La particularité de ce film, en plus d'avoir des parties qui sont chancées, c'est que tous les rôles sont joués par des enfants. La mitraillette, qui est censée être une arme invincible, c'est pas juste une mitraillette. Elle ne tire pas des balles, ce qu'elle tire, c'est de la crème. Et en fait, dans le film, dès qu'on a besoin de tuer quelqu'un, on lui tire de la crème dessus. Alors, l'ancienne version de ces armes, c'est pas un pistolet à crème, non, c'est tout simplement une tarte à la crème qu'on lance au visage des personnes. Mais en fait, très très vite, le film, il donne le ton. C'est-à-dire qu'on nous introduit une ambiance un peu film noir. Ensuite, on nous lance l'assassinat où c'est un enfant qui se fait tuer par d'autres enfants avec ses mitraillettes qui tire de la crème. Au départ, on a un peu du mal à comprendre. Et ensuite, on a l'introduction qui débat, qui a un effet très clip, mais qui nous annonce tout ce côté comédie musicale. Alors, il y a un truc qui fonctionne super bien, je trouve, ce sont les dialogues, parce que je trouve que très souvent, les dialogues de films noirs au niveau de la répartie, on est un peu sur de la répartie d'enfants, sans vouloir être vexant. Par exemple, quand Bugsy Malone se présente à Blue Sebron, il fait « Bonjour, je m'appelle Bugsy Malone », et répond « Super, tu me donneras ton adresse, je t'enverrai un courrier ». Ça, c'est un truc qu'on peut retrouver vraiment dans les films noirs, mais je trouve que dans la bouche des enfants, ça tourne le truc en ridicule. Du coup, on a affaire à un film qui parodie tout le genre, mais qui le parodie super bien. Les moments musicaux, ce pourquoi Alan Parker est très doué, je les trouve très beau, assez simple, très blues, mais très magnifique. Et dès la première chanson, Paul Williams à la musique, moi, ça m'a fait tilter. J'adore la bande-son de Phantom of the Paradise. Donc, retrouver sa voix sur les morceaux, c'est quelque chose de magistral. On est 2 ans après, donc peut-être que c'est lié, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est amusant de voir Alan Parker jouer avec tous ses clichés. Ce qui est un truc qui est très drôle, parce que ça m'a aussi fait penser à un autre film qui arrivera plus tard, c'est Roger Rabbit. Mais quand on compare, déjà, on n'a pas tout ce truc où Roger Rabbit rajoute une lecture supplémentaire du contexte social. Mais surtout, ce qui manque, la plus grosse différence entre les deux, c'est que dans Roger Rabbit, on a pas mal de sous-entendus en fait qui sont cachés. Alors que là, pour le coup, Bugsy Malone, il y a quasiment aucun sous-entendu. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qu'on peut mettre devant les yeux de tout le monde sans avoir de sous-entendu qui soit fait autour des relations. Donc je trouve que Bugsy Malone, déjà, c'est une excellente découverte, une très bonne surprise, mais c'est une très bonne comédie dont les musiques en ce moment me suivent, parce que j'aime beaucoup les sons qui sont proposés. Donc merci à Elephant Film d'avoir réédité Bugsy Malone d'Alan Parker, qu'on connaît aussi sous un autre nom qui est du Rififi chez les mômes.
Moi, je vais enchaîner avec un coffret qui n'est pas trop pour les mômes. Enfin, il faut dire les choses. Un coffret que j'encourage toutes les auditrices et auditeurs à acquérir, parce que j'ai lu il n'y a pas longtemps une interview dans les années laser de nos amis d'Artus Film qui disait c'est un coffret qui ne semble pas trouver son public. Et c'est une grave erreur, parce qu'il faut encourager nos amis d'Artus Film qui ne cessent de nous déterrer des trésors, que ça vienne des pays de l'Est, que ça vienne d'Espagne. Je ne les remercierai jamais assez pour tout, comment ils ont sorti un peu comme ça de l'ornière Eloy de la Iglesia, qui est un réalisateur que j'adore. J'en parlais depuis des années à Thomas. Il y en avait marre de se fader des copies pourries qui circulaient sur le net. Et là, ils exaucent tous mes souhaits. On reparlera d'ailleurs d'Artus Film, parce qu'il y a encore du Eloy de la Iglesia qui arrive bientôt. Et là, ils sortent donc 3 films d'un cinéaste espagnol qui est assez dingue, qui s'appelle Bigas Luna. Alors Bigas Luna, on l'a connu à partir d'Angoisse. C'est un film qui se passait dans un cinéma. Et après, on l'a connu avec des films qui, comme Jambon Jambon, tout ça, qui brassaient toujours des thèmes autour de la sexualité, des films assez anticonformistes, mais très, très loin de ses premiers films qui étaient des vrais films anticonformistes, des vrais films subversifs et des vrais films vraiment interdits à tout public. On comprend mieux aujourd'hui, grâce à ce coffret, pourquoi une partie de la critique disait ouais, Bigas Luna, ce qu'il a fait à partir d'Angoisse, c'est une sorte de, alors sans aller jusque-là, mais enfin certains le pensaient, l'écrivaient, une sorte de dévoiement un peu de son cinéma qui rendait un peu tout public en fait. Voilà. Là, effectivement, c'est pas tout public. Le coffret réunit 3 films. Le premier, c'est Bilbao, c'est un film de 78 qui va vraiment lancer la carrière de Bigas Luna, avec un autre film qui s'appelle Tatouage, que je n'ai pas vu. Ça raconte l'histoire de Léo qui vit avec une ancienne actrice Maria, qui est aussi la maîtresse de l'oncle de Léo, qui pourvoit à leurs besoins. Et Léo, il va rencontrer Bilbao, une prostituée stripteaseuse qui va bientôt l'obséder
et il va chercher à en faire son jouet. Alors, comment vous dire ? C'est pas macho, c'est pas la lune et le téton. Ah non, là, c'est pas les Bigas Luna tout public, enfin, tout public entre guillemets, pour adultes, mais pas. Mais c'est tout public par rapport à ça, hein, voilà. Donc là, bon, bah, vous avez compris, le film, il est hyper, hyper, hyper malaisant. Il est presque proche, j'ai envie de dire, de certains films de Michael Haneke, c'est dire si c'est sympathique, où il y a. Tout un discours autour de la scopophilie, du voyeurisme dans le film. C'est un film où tout passe par le voyeurisme de ce Léo-là, mais sans cette distanciation qui peut apparemment apparaître chez un Hitchcock, où il va y avoir tout un côté intellectuel, voire métaphysique, freudien en tout cas. Là, on n'est vraiment pas très bien dans nos baskets parce que le film n'a quasiment pas de dialogue. Le film ne donne quasiment pas d'explications sur les motivations des personnages. Par contre, on voit bien que Bigas Luna, c'est un plasticien puisque ce personnage de Léo, il va finir par construire une véritable œuvre plastique autour de cette prostituée qui l'obsède. Et puis derrière, il y a aussi, une question d'inceste. Enfin voilà, donc... pas à mettre devant tout public, mais c'est il y a en particulier une scène de rasage la scène d'un pubis qui se fait raser, qui est assez hard hein, quand même. Hein. Donc on est vraiment à la limite du classement pornographique. Hein. C'est-à-dire que là, c'est un cinéaste qui va dans la provocation, qui va encore aller plus loin avec l'autre film du coffret qui s'appelle Caniche, qui est un film de 79. Pareil, on est toujours sur le thème du voyeurisme, mais plutôt à travers les yeux d'un caniche. On peut parler aussi de l'amour pour les chiens, mais en toutes les sortes d'amour. Voilà, j'ai pas besoin de développer plus que ça. Et ça raconte l'histoire, en fait, d'un duo, un frère et une sœur. On parle encore d'inceste, hein, du coup, évidemment, vous vous doutez bien, tout ça c'est là-dedans. Hein. Et qui vont pas très bien dans leur tête. Voilà. Et là, il nous raconte ce quotidien. Alors, c'est un film aussi... où il décide, par contre, contrairement au précédent film, de mettre plus de choses hors champ. Bon, il faut dire qu'il allait très loin dans le précédent. Dans celui-ci, il y a des choses plus hors champ. Et puis, on voit toujours le plasticien tenté par le surréalisme dans sa composition de plan. Mais il y a quand même des choses aussi... La dernière partie est très dure, parce qu'on est autour de thématiques liées à la décrépitude du corps, la maladie. Une sorte de Cronenberg en un peu plus dégueulasse, si vous voulez. Pas forcément aussi talentueux, ça, par contre, mais en un peu plus dégueulasse. Je vous en dis pas plus. Le troisième film du coffret, alors celui-là, je l'avais déjà vu. C'était un film qui était un peu plus accessible. Ce film, c'est Lola. C'est un film de 86. C'est un film qui vient beaucoup plus tard. Et puis qui a un de mes acteurs de second rôle français et aussi grand acteur de théâtre que j'aime beaucoup, qui joue dedans, qui s'appelle Féodor Atkin. Donc j'avais pu le voir. Alors là, c'est l'histoire de Lola qui travaille dans une fabrique de chaussures et qui a une relation plutôt brutale avec un certain Mario. Elle le quitte, elle va vivre à Barcelone. Elle fait la connaissance d'un cadre sup qui s'appelle Robert, il est cadre sup dans une société automobile. Pardon. 5 années passent, elle est mariée, elle se marie, elle a une petite fille. Et puis, vous vous doutez bien ce qui va se passer, elle va retomber sur Mario. Et à partir de là, cette sorte de relation toxique et destructrice, mais qui est proposée en plus... C'est très intéressant parce que du coup, on n'est pas sur un discours plaqué, voilà. C'est un discours plutôt ambigu, plutôt subtil. Et du coup, ça donne un film assez complexe, en fait. Je vous invite à voir. Là où c'est pareil, on sent que Bigas Luna se dirige aussi de plus en plus vers une forme d'érotisme plus raffinée que dans ses premiers films. Et puis, il y a aussi, après, toute une partie qui est assez étonnante, cette dernière, que je trouve moins efficace, qui est une partie presque thriller dans le film qui vient comme ça dans la dernière partie, mais qui a quand même le mérite, justement, de jouer avec le côté moral de l'histoire. Parce qu'en fait, il y a une sorte de morale, mais c'est une morale qui est, sa lie bafouée, détournée par le réalisateur, si on arrive à comprendre sa mise en scène. Donc ce coffret Bigas Luna, que je vous recommande vivement, qu'à ne pas mettre devant tous les yeux, hein, voilà, ça je vous l'ai dit, mais si vous aimez les cinéastes plutôt hardcore, et puis, comment dire, si vous voulez voir ce que peut donner un pays qui a été frustré par des années de franquisme, et qui se libère via le cinéma, vous pouvez voir ce coffret Bigas Luna, vous ne serez pas déçus, donc c'est chez Artus Film. Vous écoutez Culture Prohibée. Comme je vous le disais en introduction de cette émission, on garde le meilleur pour la fin. On va garder un de nos gros coups de cœur de ces dernières années. Ça fait plaisir quand on voit ces films, d'ailleurs, à ce réalisateur, puisqu'on se dit, il y a encore des gens qui font du cinéma, même avec des effets numériques dégueulasses. Il y a du souffle, il y a quelque chose d'incroyable, une énergie folle qui se dégage de ce cinéaste. Ce cinéaste, c'est S.S. Rajamouli, qui est mis à l'honneur par Carlotta Film. Et Carlotta Film nous promet en plus de continuer à sortir des films de Rajamouli. Donc là, on a trop envie de voir la suite. Parce qu'en fin de compte, moi, je connais celui-là et Triple R, hein, dont on parlait tout à l'heure. Ce film-là, c'est La Légende de Baahubali. En plus que le réalisateur a remonté pour le condenser en un film un peu plus court en enlevant des parties de l'intrigue, là, grâce à Carlotta, on a la vraie version du film, puisqu'on a les deux parties du film. Alors bon, il faut avoir du temps devant soi, hein, ça dure un certain temps. Mais on a donc La Légende de Baahubali de S.S. Rajamouli, mon cher Thomas, qui donc débarque comme ça sur nos platines Blu-ray pour notre plus grand bonheur.
Et oui, effectivement, pour notre plus grand bonheur, parce que c'est une vraie découverte. Hein. Bon, on avait vu RRR, hein, mais là, c'est vraiment un film qui explose tout, selon moi. Hein. C'est vrai, c'est un film qui a du souffle, un grand souffle épique. Deux parties, plus de 5 heures, hein, plus de 5 heures de cinéma quand même. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, La Légende de Baahubali ? Le film commence par une séquence où une femme est poursuivie par des soldats. Elle tient un nouveau-né dans ses bras et puis elle casse la gueule aux soldats, bien sûr, hein, mais manque de bol, elle se noie, mais elle sauve l'enfant qui est recueilli par des villageois qui habitent au pied d'une falaise. Donc cet enfant grandit, on l'appelle Shiva, il devient un beau mec, hein, bien musclé, fort, courageux. Et lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir remonter la cascade, une grande cascade. Hein, c'est pas les petites cascades de montagne qu'on va voir l'été. Hein. Donc il veut remonter la cascade, il remonte la cascade. Alors ça donne une séquence encore, tout le film est comme ça. Hein. On ne reprend jamais son souffle, c'est épique du début jusqu'à la fin, avec un beau cinémascope. Alors effectivement, il y a beaucoup de numérique. Mais finalement, on s'en fout parce qu'on fonctionne à fond. Et donc là, il rencontre une jeune femme qui veut libérer une femme qui est prisonnière d'un royaume visiblement qui est tenu par un tyran. Et il rencontre une jeune femme, bien sûr, dont il va tomber amoureux. Et il va se mettre à ses côtés sans savoir qu'en fait, il est l'héritier de ce royaume, l'héritier légal de ce royaume qui est dirigé par un tyran. Alors, pendant plus de 5 heures, donc c'est complètement improbable. Bien sûr, il faut rentrer dans le film, c'est une convention. Il y a des effets héroïques complètement improbables, mais on marche à fond. Moi, je marche à fond. Alors, quand on voit que le film, il date quand même de 2015 et 2017, donc il y a quand même presque 10 ans, et quand on voit ce que fait le cinéma américain encore aujourd'hui, à l'exception de James Cameron, qui lui, à mon avis, fait encore du spectacle épique, qui a du souffle, mais les Marvel, tout ça, les autres blockbusters américains, quand même, généralement, c'est plutôt plat, filmé plan-plan. Alors là, si vous voulez du vrai grand spectacle, il faut regarder La Légende de Baobali, avec des batailles, mais alors, incroyables, avec des... Et c'est violent en plus, c'est violent mais ça passe bien. Hein. Et S.S. Rajamouli était lui-même étonné, j'ai lu dans une interview qu'il a accordée à Christophe Gans dans le dernier numéro de Starfix, il était lui-même étonné que son film rencontre, enfin ses films, parce qu'il en a fait plusieurs, hein, nous on en a vu que deux, mais il en a fait plusieurs, que ses films rencontrent un succès international, parce que lui il le pensait que pour les spectateurs indiens au départ. Donc il est assez surpris de voir que ses films fonctionnent à l'international. Et alors, pourquoi 5 heures ? Parce qu'il y a un gros flashback, des batailles, mais alors qui durent super longtemps avec des nombreux figurants, des effets spéciaux. Mais alors on en prend plein la tête. Hein. Et puis bien sûr, des gestes héroïques. Le héros, il est beau, il est fort, il est courageux, il est brave, il est valeureux, il est honnête. C'est pas un gars qui ramène tout, là, toujours la couverture à lui. Et ouais, donc c'est effectivement un grand spectacle. Je ne sais plus quoi dire d'autre sur ce film, tellement c'est époustouflant, tellement on s'en prend plein la tête. Moi, je pensais que ça allait être difficile de regarder le film, enfin les deux parties en une seule fois, mais j'ai tout ingurgité à la suite comme ça. Et c'est vraiment c'est vraiment du grand spectacle, du grand film d'aventure, comme on aimerait en voir, plus souvent, quoi. Comme nous, on en voyait, comme on était émerveillé devant Indiana Jones à l'époque, dans les années 80, bah là, aujourd'hui, on est émerveillé par les films de S.S. Rajamouli.
Je rajouterais juste, parce que tu as tout dit, c'est exceptionnel. Franchement, mais vraiment, on ne sait pas qu'on est dithyrambique, on ne l'est pas souvent quand même, donc là, c'est une découverte. En plus, il a fait plein de films qu'on n'a pas vus, donc du coup, on a envie de tout voir. Et juste pour dire que... En fait, moi, alors oui, effectivement, ça rappelle tous ces grands films d'aventure, ces films épiques, le cinéma de David Lean, tout ça, mais à la sauce d'aujourd'hui, hein, avec des préoccupations d'aujourd'hui, des moyens de mise en scène d'aujourd'hui, enfin voilà, mais surtout, moi, ce que ça me rappelle, en fait, c'est quand on a découvert, durant les années 90, le cinéma hongkongais, et qu'on a vu c'est ça que ça me rappelle, moi, les premiers Chouark, The Blade, tout ça, quand on a vu tout ça, qu'on a découvert tout ce cinéma-là, à l'époque, donc il y avait les Chouark, les John Woo, les réalisations de Sammo Hung, tout ça, mais surtout Chouark, qui est vraiment, pour moi, un peu oublié aujourd'hui, on ressort des John Woo, là, mais on n'en parle pas de Chouark, et c'est un sacré metteur en scène. Et je trouve qu'on retrouve cette énergie-là, cette folie-là, cette dinguerie, comme il y avait dans Il était une fois en Chine, tout ça. Tous ces films-là qui nous ont émerveillés. Donc, La Légende de Baobali, c'est du même niveau.
Oui, et puis il y a des intrigues shakespeariennes, enfin des intrigues de couloir, des intrigues de palais. C'est un peu manichéen, mais on s'en fout, on fonctionne à fond. C'est vraiment chouette. C'est du Shakespeare à la sauce un peu fantasy, parce qu'on n'est pas dans un univers réaliste, hein, pas du tout. Hein. Mais il y a vraiment des idées de mise en scène, des idées visuelles. C'est vraiment c'est un grand film, quoi.
Et c'est disponible chez Carlotta Film. He's a sinner, can decode it. For all his friends, he always seems to be alone. But they love him. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, une émission animée avec Johan Chanoir, dit Le Chat Errant, Damien Demé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Hard-headed Bugs, he makes his mind up.
Don't mess with Bugsy or you'll wind up wishing you'd left well enough alone. He's a man of mountain, he's a rolling stone, and will he leave you a sad and lonely crying? I couldn't say, but it's known that everybody wants that man, Bugsy Malone.